Mercredi, vers 1h du matin, l'adolescente tchétchène reçoit un appel de l'un de ses amis d'origine albanaise. Ce dernier lui explique avoir besoin d'aide, car il aurait été agressé dans le bar à chicha où il se trouve.
Mon fils, il a reçu un coup de crosse sur la tête. Quelqu'un a mis pistolet dans la bouche.
Ce serait donc pour venger cette agression que la communauté tchétchène s'en serait prise à la communauté maghrébine de Dijon. Des affrontements en pleine rue.
Le bilan judiciaire, il n'est pas mince. C'est 50, un peu plus de 50 personnes qui ont été placées en garde à vue.
Les violences survenues à Dijon ces derniers jours n'ont pas manqué de susciter l'attention médiatique et politique.
Mais les 6 personnes en garde à vue ont-elles participé aux vives tensions de ces derniers jours? Avec plus d'une centaine de Tchétchènes, certains armés, en plein centre-ville de Dijon.
En plus des 150 hommes en renfort déployés ce soir, le ministre de l'Intérieur a décidé de projeter une équipe du RAID. Le secrétaire d'État Laurent Nunez doit se rendre sur place ce mardi.
Un montage réalisé par Jean-Christophe Francis pour introduire cette fabrique médiatique consacrée à votre enquête publiée dans le nouveau numéro de la revue Zadig. Anne Niva, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Grand reporter indépendante, vous avez reçu en 2000 le prix Albert Londres pour votre travail en Tchétchénie, vos articles pour Libération et Ouest France notamment à l'époque, et votre livre Chienne de guerre publié chez Fayard. Vous avez fait beaucoup de choses depuis, mais c'est important de rappeler cela avant d'évoquer cette enquête.
Oui, merci de le rappeler.
Donc voilà, règlement de compte qui revient sur ces événements, on l'a dit, très médiatisés du mois de juin, on s'en rappelle, quartier des Grésils à Dijon, plusieurs jours d'opposition entre des Tchétchènes et des Maghrébins. L'enjeu est posé dès le départ. Dans votre enquête, vous l'écrivez, les Tchétchènes sont une communauté méconnue en France. Est-ce pour cela que vous avez voulu revenir sur ces événements?
Mais bien sûr, je crois que c'est la clé. C'est justement, on a toujours très peur de ce qu'on ne connaît pas. Et les Tchétchènes font très peur en France, parce qu'ils sont très peu connus. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité une seconde quand Eric Fotorino, directeur de la publication de Zadig, m'a demandé de me pencher sur le sujet. Parce que je pense que aujourd'hui, où on est dans une société médiatique où tout va très vite, où c'est le règne de l'instantané, le règne des stéréotypes, derrière lesquels on n'a souvent pas le temps d'aller en profondeur. Donc je crois qu'il était important là d'essayer de saisir qui sont ces Tchétchènes, pourquoi ils font si peur. Pourquoi est-ce qu'ils projettent cette image négative? Est-ce à tort ou à raison? Et pour cela, il faut en revenir aux faits. Et les faits sont complexes.
Voilà. Alors justement, dans cette enquête, vous expliquez ce qui s'est passé, les faits, le déroulé des événements. Et à travers cela, effectivement, vous nous parlez au final beaucoup de cette communauté tchétchène. Au fond, justement, en quoi comprendre les faits nous permet de mieux les connaître, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce qu'il vaut mieux les connaître? Il faut mieux les connaître pour mieux comprendre ce qui s'est passé.
Mais c'est les deux à la fois, parce que une des raisons pour lesquelles Eric Fotorino a pensé à moi pour cette enquête, c'est parce que je connais la communauté tchétchène. Et je la connais depuis longtemps. Vous avez rappelé brièvement mon parcours. Moi, j'ai débuté ma carrière journalistique par le pire. Et le pire, c'était la guerre en Tchétchénie. Je n'ai jamais vécu pire que cela depuis 20 ans. C'est-à-dire une guerre en huis clos dans une région, donc cette petite Tchétchénie, sur le flanc sud-ouest de la Russie, dans le Caucase du Nord, une guerre où l'armée fédérale russe a bombardé de façon absolument aveuglément ce petit peuple d'un peu plus d'un million d'habitants pour des raisons de guerre d'indépendance que la propagande russe du Kremlin à l'époque appelait une opération antiterroriste. Mais là, on est avant le 11 septembre 2001, on est avant les obsessions terroristes sécuritaires d'aujourd'hui. Et donc ce peuple, moi je suis tombée dedans, si je puis dire, sans le connaître, et j'ai été extrêmement étonnée de voir l'importance de ses us et de ses coutumes, par exemple du respect d'une personne plus âgée que vous, devant laquelle on se lève imperceptiblement quand il entre dans une pièce, et tout cela, toutes ces coutumes, les Tchétchènes les ont apportées avec eux quand ils ont essaimé en Europe occidentale jusqu'à la France suite à cette guerre. C'est donc une des dernières communautés étrangères arrivées en France et évidemment ils doivent faire leur place par rapport à ceux qui sont arrivés avant eux. Et ils sont minoritaires, ils sont en petit nombre les Tchétchènes. En petit nombre mais avec des traditions
à peu près
très fortes. Nous n'avons pas de chiffres.
Ouais,
de toute façon, il n'y a
c'est
pas...
C'est les estimations. Enfin, c'est
oui,
c'est
il n'y a pas en France, voilà. Comme vous savez, bien de sûr. Statistiques ethniques. Donc nous ne savons pas. Ce que nous savons, c'est les villes, les endroits où il y en a le plus, et là où ils font le plus parler d'eux en France. C'est très nettement la ville de Nice. J'avais d'ailleurs enquêté pour Le Point il y a quelques années. Et ça reste la ville dans laquelle il y a le plus de Tchétchènes aujourd'hui. Donc les Tchétchènes doivent s'adapter à la France, ils doivent essayer de la comprendre pour s'intégrer, ce sont les grandes questions du moment, mais nous aussi les Français, nous devons essayer de les comprendre et ça n'est pas facile parce que ils sont très différents de nous au niveau de leur culture.
Oui, mais alors justement, ça, vous le montrez bien dans l'enquête, mais je voudrais quand même qu'on s'arrête sur ça, c'est-à-dire sur ce mot de communauté tchétchène. Est-ce qu'il y a vraiment une communauté tchétchène? Est-ce qu'on peut dire ça à Niva sans risquer de les essentialiser?
Non mais écoutez, on dit communauté aujourd'hui pour tout. Communauté journalistique, communauté arabe, communauté les bobos,
les élites, etc. Non, mais je veux dire, est-ce que là, ça a un sens, en l'occurrence, précisément.
Non, mais les mots, là, franchement, n'ont vraiment pas d'importance. Mm. Ce qui est important, c'est l'usage qu'on en fait. Mm. Et justement, pour éviter les faux sens, il faut revenir aux actes, à ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé a choqué le grand public en France, parce que les Français, je les comprends, ont vu arriver sur leurs écrans à la mi-juin 2020 des images extrêmement violentes. On ne comprenait pas d'ailleurs tout de suite d'après les images qui était qui. De groupes de personnes, essentiellement des jeunes hommes, sur un parking, des vidéos. Alors, il y avait les Tchétchènes d'un côté et les Maghrébins de l'autre. Parce que, et puis, il y a eu une question aussi de mimétisme entre eux. Parce que j'ai déjà eu beaucoup de place dans Zadig pour dérouler mon enquête, mais en fait, j'aurais pu faire beaucoup plus long. Parce que les rapports entre la communauté maghrébine française et la communauté tchétchène sont très intéressantes. Il n'y a pas que des questions de haine. Il y a aussi des questions de respect. Mmh. Et justement, une espèce de rivalité, entre guillemets, entre ceux qui auront le mieux réussi ou pas à garder, à conserver leurs coutumes. Et ça, c'est très important. Et justement, la communauté maghrébine se rend compte, à travers le miroir tchétchène, que eux n'ont pas réussi à garder ce que des Tchétchènes ont encore réussi à garder aujourd'hui. Pour combien de temps, on ne le sait pas. Est-ce que c'est ça, devenir français, s'adapter à la société et ne rien garder de ce qu'on a, de ce avec quoi on arrive? Est-ce que c'est pas ça? Les questions restent ouvertes. En tout cas, pour la journaliste que je suis, c'est proche de la sociologie, de l'histoire de l'immédiat, et c'est fascinant.
Vous écrivez, depuis qu'ils sont en France, les Tchétchènes font peu parler d'eux, sauf justement lors de heurts avec d'autres communautés. Oui. Quand l'un d'entre eux est attaqué, la démonstration de force est une réponse culturelle fréquente. C'est cela qui s'est passé dans ce cas précis à Dijon?
Oui, alors ils font peu parler d'eux, justement quand tout va bien. Et quand tout va bien, c'est que la plupart du temps, les Tchétchènes, les jeunes générations tchétchènes, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés bébés en France et qui ont déjà plus de 15 ans, travaillent très bien à l'école, sont très bien intégrés, parlent évidemment très bien français, sont français, et ils arrivent à crever cette espèce de plafond de verre que parfois on se dit que pour la communauté maghrébine, certains n'ont pas réussi à crever, c'est-à-dire devenir, avoir des professions qui sont des professions qui ont du pouvoir en France. Ça, c'est très important. Et je pense que toutes ces questions sont traitées surtout en ce moment, de façon totalement hystérique, avec beaucoup de violence, non seulement physique, mais également verbale. Et ce qui s'est passé à Dijon, c'est un peu la quintessence de tout cela. C'est pour ça. Voilà, aussi
rappelez-nous
que ça a fait
peut-être
peur
justement,
à tout le monde.
Vous, avec les faits,
ce que je voudrais, c'est
les informations,
les
témoignages,
nos auditeurs lisent Zadig.
Absolument.
En gros, ce qui s'est passé, mais vous l'avez rappelé, il y a eu des mots échangés au départ, au tout départ, puis ensuite ça a grossi entre un jeune Albanais et un ressortissant de la communauté maghrébine, et puis le jeune Albanais en a parlé à son copain daghestanais, qui en a parlé à son copain tchétchène. Bref, c'est arrivé aux adultes. Et les adultes tchétchènes ont décidé d'aller demander aux Maghrébins du quartier des Grésilles ce qui s'était passé exactement, et ils ont voulu des noms. Personne ne leur a donné les noms, et ils se sont déplacés en masse. Et c'est cette capacité à se déplacer en masse et à se regrouper en masse et à faire corps qui a, je crois, rendu perplexe énormément d'observateurs, puisque le groupe tchétchène en 3 jours a augmenté de 15 à 300. Et ça, ça montre justement le degré d'unité de cette communauté, de ce groupe, de ces Tchétchènes qui sont pour la plupart français, qui est quelque chose que nous avons perdu, cette espèce de fraternité extrêmement forte entre nous. Et c'est cela dont j'avais également envie de parler à froid, je dirais, dans ce texte, pour montrer que nous, en France, formons un kaléidoscope de communautés vivantes. Je crois que Emmanuel Macron en a encore parlé hier dans son entretien. Qu'est-ce que c'est qu'être français ? Tout le monde se la pose la question, y compris les Tchétchènes qui sont français, y compris les Maghrébins des quartiers qui, pour certains d'entre eux, sont malheureux de pas trouver leur place, sont victimes de racisme, de délits de faciès, etc., etc. Et tous ces sujets-là, il vaut mieux en parler plutôt que d'être dans le déni et de les cacher. Et là, on a eu de la violence qui a remplacé une expression, disons, de débat. Et je crois qu'en revenant dessus, eh bien, on peut se permettre de débattre. Alors, attention, j'ai écrit cela et tout cela s'est passé avant
l'assassinat terroriste de Samuel Paty,
qui a été perpétré par un jeune homme tchétchène.
Aniva, justement, vous dites les communautés. Est-ce que vous avez rencontré aussi, au cours de cette enquête, en tout cas, ils ne sont pas, on ne les entend pas, justement, des membres de la communauté maghrébine, c'est-à-dire de ceux qui se sont opposés aux Tchétchènes, justement.
Non, bien sûr que si j'avais voulu les rencontrer, je les aurais rencontrés. Et ça, je l'ai déjà fait précédemment, notamment dans Le Point. C'est pour ça que je vous dis que je sais les questions de respect mutuel qu'il y a entre ces deux communautés.
Mais là, c'est pas ce que
vous voulez faire. Mais là, c'était pas le sujet. Voilà. L'angle, c'était qui sont les Tchétchènes? Pourquoi sont-ils venus ici? Que font-ils en France? Comment s'adaptent-ils à la France? Voilà. Je pense, mais j'ai pas fini d'enquêter sur la communauté tchétchène. Alors, il y a quand même donc Radima dans l'article de Zadi qui explique que...
C'est la fille de l'un des mis en examen.
Voilà. Son père qui était là pour arranger les choses et qui s'est retrouvé mis en examen. Le procès n'a pas encore eu lieu du tout. Hein. Les personnes mises en examen le sont toujours. Cette jeune femme, Radima, qui est diplômée de psychologie, me disait, mais il y a un problème avec l'islam en France. Et elle le disait avec, je dirais, toute sa naïveté, mais naïveté dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, en fait, c'est oser dire des choses que personne n'ose dire. Comme Mohamed, qui a été mon fil conducteur dans cet article, qui vient de Grenoble, qui est un des 300 qui est arrivé avec sa voiture, qui a envoyé des messages aux autres par Snapchat pour dire de venir, etc. Et qui me disait, mais nous, dans notre communauté, dans notre société tchétchène, ça ne se fait pas d'aller porter plainte.
Si on porte plainte, on est faible.
Porter plainte, c'est avouer sa faiblesse. Mais ça, il faut l'entendre. Parce qu'effectivement, c'est très différent pour nous, qui sommes français, qui sommes nés en France, qui n'avons pas la même culture. Pour nous, porter plainte, c'est un acte de courage, c'est un autre type d'acte. Or, il faudrait que tout le monde s'entende sur qu'est-ce que ça veut dire porter plainte. Mais avant cela, avant d'aboutir à cela, il faut que tout le monde comprenne que chacun peut avoir des avis différents sur le sens de ce que c'est que d'aller porter plainte. Je crois que c'est ça le journalisme aujourd'hui, et c'est pour ça que j'aime encore autant ce métier. C'est pas moi donner mon opinion sur qui a tort, qui a raison. C'est essayer de montrer les différences de point de vue entre les différents acteurs de ce fait divers. C'est très important de les entendre. Les entendre les uns et les autres, ça ne veut pas dire leur donner raison ou leur donner tort. Ça veut dire accepter que leurs opinions sont là et qu'elles ont des conséquences. Et que nous, les journalistes, notre rôle, c'est d'essayer de montrer la complexité de ces opinions aujourd'hui et de ce à quoi elles peuvent aboutir avant que ça soit finalement la baston générale.
Et entendre aussi ce que ça dit de nous et du pays dans lequel nous on vit. Ça, c'est ce que vous avez fait aussi avec votre
Absolument.
Livre.
Dans quelle France on vit. C'est très important d'essayer de le comprendre et de ne pas être dans le déni.
Merci beaucoup, Aniva, d'avoir été avec nous ce matin sur France Culture pour La Fabrique médiatique. Règlement de compte, votre enquête est donc à lire dans le numéro 8 de la revue Zadig avec des illustrations de Cécile
Magnifique
Guillard.
Oui, tout à fait.
Nous rappelions au début votre prix Albert Londres en 2000. Et ben on en profite pour signaler que les prix Albert Londres 2020 seront décernés aujourd'hui
à
18h. Cérémonie en ligne, évidemment, en direct du Théâtre de l'Alliance Française à Paris. Et toutes les informations pour suivre cette cérémonie sont sur le site du prix. Merci à vous. Le journal arrive sur France Culture. À tout de suite.